Fanny Burney. Camilla ou la peinture de la jeunesse. Tome 4e. Livre 7. Chapitre 1er. Manière juste de raisonner. Camilla fut accueillie avec la joie la plus vive par toute sa famille, qui était toujours assemblée à Clèves pour y recevoir le jeune Lindemer. Sœur Hugues, entièrement remis de sa dernière maladie et malgré toutes les représentations, occupé des apprêts des noces prochaines, était d'une gaieté qui faisait plaisir à tous ceux qui le voyaient. Eugénia attendait cet événement avec une douceur mêlée de quelques agitations. Elle craignait que ses disgrâces personnelles ne repoussassent Clermont et souhaitait de trouver en lui les talents de Melmont, la passion et la constance de belle amie. Le docteur Orborn donnait alors ses leçons avec une assiduité redoublée dans l'espérance de montrer au jeune savant un phénomène de science en lui présentant sa jeune élève. Il montrait d'autant plus de zèle à remplir sa tâche qu'elle paraissait tirée vers sa fin. Mais Miss Margland enrageait de ce que ses noces n'avanceraient pas le voyage de Londres. Indiana ne pouvait revenir de son indignation de voir qu'Eugénia, laide, défigurée, plus jeune qu'elle de 2 années, serait mariée la première. Lavinia ne songeait qu'au bonheur de sa sœur. M. Tyrol déplorait l'absence de sa femme, qui lui semblait la seule personne propre à mener cette grande affaire. Le docteur Marchmont, qui venait d'arriver, voyait son retour encore éloigné. Cependant, Eugénia n'était pas le seul objet des soins de son père. La contenance de Camilla lui fit bientôt découvrir l'inefficacité du voyage de Tunbridge. Mais il ne voulut faire aucune question, aimant mieux attendre du temps et de la libre volonté de sa fille ce qu'il désirait savoir, c'est-à-dire si l'inquiétude dont il la voyait agitée était l'effet de quelques nouveaux incidents ou celui d'une prolongation douloureuse de la même situation. 2 jours après, pendant que Camilla, surprise de n'avoir aucune nouvelle d'Edgar et de ne pas le voir, était assise avec ses sœurs et leur racontait ses dernières aventures et ses embarras actuels relativement au baronnet Sir Sedley Clarendel, Jacob lui rapporta le petit oiseau qu'elle avait laissé à Tunbridge. Il le lui présenta dans la même cage en disant qu'un inconnu le lui avait remis sans lettre d'envoi, en lui recommandant de ne le montrer à Camilla que lorsqu'elle serait à Clèves. Nouvelle contrariété, nouveau sujet d'alarme pour Camilla. Mistress Albury l'avait pressé de le prendre dans la chaise de son oncle, ce qu'elle avait formellement refusé. Elle ne douta point que Sir Sedley n'eût voulu pouvoir dire qu'elle avait accepté son présent. En retirant de la cage la petite auge qui contenait la graine de l'oiseau, elle aperçut ces mots, écrits sur le bois avec un crayon. « Tu pars, belle fugitive !» Ah, du moins, ne t'enfuis pas si loin qu'on ne puisse te suivre. » On ne pouvait voir cette écriture qu'après qu'on aurait retiré le vase pour le remplir. Camilla reconnut la main de Sir Sedley, et sûre alors que c'était lui qui renvoyait la cage et l'oiseau, elle ne douta plus que ses intentions ne fussent très sérieuses. L'âme remplie d'inquiétude et de crainte, elle consulta ses sœurs. Mais quand elle leur eut ingénument raconté qu'une seule fois, à son grand regret, elle avait agréé ses civilités, Eugénia prononça que Sir Sedley lui proposait sa main. La droiture de son caractère qui l'avait induite dans cette erreur, la vie qu'elle devait à son zèle et le service extraordinaire rendu généreusement à Lionel étaient autant de motifs qui ne lui permettaient pas de rejeter les offres du baronnet. Cette opinion fit frémir Camilla. Une timide retenue et le conseil de son père se réunirent pour l'empêcher de faire connaître l'obstacle intérieur qu'elle sentait être insurmontable. Et pendant que, silencieuse, Camilla levait les yeux au ciel, elles aperçurent Lionel qui s'avançait au galop dans le parc. Camilla courut à sa rencontre. Il descendit et tint son cheval par la bride pour marcher avec elle. Elle se flatta qu'elle pourrait maintenant lui représenter tout le mal dont il était la cause et comment il devait le réparer. Mais elle le trouva plus insouciant et plus fou que jamais. « Eh bien, ma chère enfant, s'écria-t-il, quand voulez-vous que je répare tout ce mal? L'oncle m'envoie chercher pour voir notre petite grecque et latin clopiner vers l'hôtel, mais notre baronnette désire vous y faire monter avant elle. C'est un garçon charmant, nous venons d'avoir une longue conversation ensemble. » Vous n'aurez pas manqué de lui dire quand et comment vous comptez lui payer ce qu'il vous a prêté ?
Ma chère enfant, je pense quelquefois que vous n'êtes au monde que d'hier. Pourquoi voulez-vous que je songe à le payer ? Lui ai-je fait mon billet ?
Un billet ? En faut-il quand on a de l'honneur, de la probité ?
Si j'avais demandé moi-même cet argent, vous auriez raison, ma chère. Je serais obligée de le rendre. Mais ceci n'est pas mon affaire, c'est la sienne.
Oh, fi, Lionel, fi !
Mais en quoi cela peut-il me regarder ? Croyez-vous qu'il s'inquiète beaucoup de moi ?
Non, ma chère, non. C'est vous que je charge de cette petite dette. Arrangez vos comptes vous-même et ne les rejetez pas sur ceux qui sont assez embarrassés des leurs.
Et vous avez eu la cruauté, s'écria-t-elle, de me compromettre à ce point ?
Eh, ma chère enfant, que vous en coûtera-t-il donc, si ce n'est une fossette ou deux à vos joues ? Ne savez-vous pas que vous êtes toujours plus jolie quand vous souriez ? Je vous assure qu'il est heureux qu'il ne vous voie pas quand vous me faites une réprimande. Cela vous défigure horriblement, il en serait épouvanté. C'est un très beau garçon, sur ma parole, aussi généreux que jamais l'on puisse en voir. Il m'a recommandé de m'adresser librement à lui quand je me trouverai dans quelque embarras ou quand les choses n'iraient pas à ma fantaisie. Il connaît le monde à merveille, cela je vous le garantis. Il n'a rien de vos tristes pédants, de vos moralistes. Il a des idées justes des choses, c'est un véritable ami pour moi, ma sœur, et vous ne pouvez jamais faire un meilleur choix.
Camilla protesta de la manière la plus solennelle qu'elle n'était liée d'aucune manière avec lui, que son intention était de le refuser nettement. Mais il ne fit que rire de cette déclaration et que l'empressement du baronnet était très sérieux. « D'ailleurs, ajouta-t-il, il n'est pas beau de badiner quand un homme agit aussi bien. Considérez donc 200 guinées. »«
Lionel, vous me ferez perdre l'esprit, vous me mettrez hors de moi si vous me parlez ainsi. »
« Comment, ma chère enfant, qu'est-ce donc 200 guinées pour Sir Sedley Clarendel ? Vous parlez là comme s'il n'avait, ainsi que vous et Lavinien, que 20 livres par an. Il est riche comme Crésus. D'ailleurs, je lui ferais affront si je lui parlais de lui payer une pareille bagatelle, car il m'a fait offre de service. Il a dû savoir vivre, ma chère. Je ne crois pas avoir fait une meilleure connaissance de ma vie. » Camilla était dans une agitation qui parut inquiéter Lionel un moment, mais sa légèreté naturelle reprit bientôt le dessus. Il se mit à rire de s'être presque laissé prendre par des caprices d'enfant, il protesta qu'on ne l'y prendrait plus. « Car après tout, ma chère, ne songez pas à faire de moi le bouffon de la pièce. Cela ne sera pas, je vous en préviens. Puis-je supposer qu'il aurait pour moi tant d'égards s'il ne savait déjà que le nœud qui le serre vous engage aussi ? « Non, assurément. » Alors il lui souhaita le bonjour en l'appelant Lady Clarendel et dit qu'il allait voir si la petite grecque et latin serait aussi folle, aussi prude avec le jeune Lindemer. Camille resta presque pétrifiée d'étonnement. Pour sortir de cet embarras, elle aurait ouvert son cœur à son père avec franchise et confiance. Mais hélas, elle ne pouvait lui faire part de sa cruelle situation sans trahir son frère.